Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Deuxième heure d'émission, on va parler de nos bâtiments patrimoniaux. Vous savez que c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup. Les antiquités, les maisons anciennes, tout ça relié à l'histoire, au patrimoine. Je trouve que c'est important. On se le fait dire souvent. C'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et un pays qui a pas beaucoup d'histoire comme le nôtre devrait privilégier, à mon avis, les souvenirs qui témoignent d'un certain héritage du passé. Et au Québec, malheureusement, je pense qu'il faut le dire, c'est malheureux, mais on a le pic démolisseur un peu trop facile. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, de la démolition de la maison Boileau à Chambly, bâtiment patrimonial qui a choqué beaucoup de monde, on s'en était parlé. Là, ça se poursuit avec le fameux monastère de Berthierville qui a failli être rasé. Il y a plusieurs autres maisons ancestrales au Québec qui sont détruites ou qui l'ont été parce qu'il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas d'argent ou elles prennent la place, le terrain de peut-être projets immobiliers qui vont peut-être plus rapporter que la vieille affaire qui est là puis qu'on ne sait pas à qui elle appartient finalement ou dont on a perdu l'objet. Alors, je voulais qu'on parle de ça. C'est important de parler de notre histoire. On va en reparler d'ailleurs demain. Je vous proposerai une discussion demain sur le fait qu'on connaisse plus ou moins notre histoire du Québec. Vous savez que c'est la fête des Patriotes la semaine prochaine. Il faudrait peut-être se rappeler ça. Avec nous, Alain Choquette, magicien, passionné des maisons ancestrales, un passionné d'histoire aussi, passionné du Québec que t'as fait en long et en large plusieurs fois. D'ailleurs, tu vas être à Montréal en fin de semaine au Saint-Denis pour ton spectacle.
Demain samedi, j'étais à Québec.
Mais t'étais à Québec, voilà.
Montmagny la veille.
Fait que tu as en fait du Québec.
Je me promène. Et c'est drôle que tu nous dises ça. Tu dis, on va parler d'antiquité, on va en inviter une.
Ouais. Oh! Hey, j'ai pas dit ça!
Non, j'ai senti.
Tu commences.
Bien décapé. L'antiquité bien décapé. Non, mais c'est drôle parce que. Que tu m'invites, Isabelle, ce matin pour ça, parce que j'étais à Montmagny lundi, je jouais à Montmagny et mercredi à Québec. J'ai décidé mardi de prendre la 132 le long du fleuve. Et c'est une route qui est magnifique parce qu'il y en a des belles maisons. Il y en a des magnifiques, des vieilles qui n'ont pas été détruites par les Anglais à l'époque. Il en reste encore. Et c'est l'amour des gens qui fait qu'on a ces maisons-là.
Tellement. Des gens passionnés des comme gens, toi comme Michel Martel.
Qui est là ce matin.
Qui est là avec nous, qui est un récupérateur. Bonjour Michel.
Hey, bonjour amis.
On s'est parlé il y a quelques mois justement pour la maison de Chambly. Vous récupérez des maisons, vous restaurez des maisons, vous les inspectez. Vous habitez à Saint-Grégoire en face de Trois-Rivières. Ça fait une quarantaine d'années que Michel Martel restaure des dizaines de maisons anciennes. Il a un site d'ailleurs qui s'intitule piècesurpièces.com. Allez voir ça après le show, pas de suite.
Michel, transmission.
Voilà. Et vous?
La connaissance.
Voilà, c'est ça à la base, hein, Michel?
Oui, c'est ça à la base, la transmission de connaissances, parce qu'on sait que dans le domaine de la construction, avec les organismes qu'on a présentement, le patrimoine bâti est abandonné. Là, puis les gens qui ont de la connaissance ancienne aussi sont abandonnés, là. Fait que je veux dire, c'est en perte c'est en grosse perte, là. Je sais pas si vous avez vu l'article de l'ingénieur Yves Lacourcière au mois de décembre sur la presse, là, qui a parlé, qui tire une sonnette d'alarme, là, par rapport à la protection des savoir-faire.
Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'on a des témoignages quasiment toutes les semaines, en tout cas certainement tous les mois, de ces maisons qui sont en train de passer dans le tordeur parce que il y a un projet, là, dernièrement, là, qui nous a intéressé. D'ailleurs, la ministre Nathalie Roy, la ministre de la Culture, à Berthierville, on parlait du projet de monastère. Là, le promoteur dit, ben là, moi, regarde, je veux pas la rénover, cette maison-là. Je l'ai acheté. Le monastère, je l'ai acheté pour pouvoir le jeter à terre.
C'est pour le terrain.
C'est pour le terrain, pour faire des condos ou quelque chose dessus.
Oui, c'est comme à Chambly, ça. Exactement. La dernière fois qu'on a parlé de ça, de la maison qui a été démolie à Chambly. Ouais. Il faut aller faire un tour à Chambly pour voir le terrain. Là, c'est phénoménal. Là. C'est le plus beau terrain de la région. Alors, vu que les gens oublient vite, moi, je vous garantis que d'ici 2-3 ans, il y a une tour à condo qui se lève là. C'est le plus beau terrain qui est prisé, là, puis qui a une vue sur la rivière. Fait que notre pauvre petite maison, là, dans le fond, il aurait dû prendre l'alternative de la déménager, cette maison-là, la mettre ailleurs, mais pas de faire qu'est-ce qu'ils ont fait là, en sauvage. Là.
Voilà. Et puis à Berthierville, le monastère, vous en pensez quoi, Michel Martel? Est-ce qu'il a une valeur?
J'ai pas grand opinion à donner là-dessus parce que je l'ai pas inspecté, je l'ai pas examiné, je ne sais pas si vraiment là, toutes les problématiques qu'il y a là, parce que souvent, ça, c'est des monastères qui datent du début du 20e siècle, si ma mémoire est bonne, je pense, du 910, 20, 30. Fait qu'on est dans le royaume de l'utilisation là, à outrance de l'amiante, et puis il y a différents procédés de construction. Il faut faire attention aussi avec le patrimoine à un moment donné.
Y a-t-il des affaires qui pourraient ne pas être bonnes à garder? Il y a ça, là.
Cette question-là,
oui, c'est
quand
ça.
Est-ce
des
qu'une maison est plus récupérable?
Choses, et puis souvent, ben, ça dépend aussi des vues de ce qu'on veut faire avec ça. Là. Il y a plusieurs exemples en province qui ont pris des vieux bâtiments puis qui les ont transformés en résidence pour des personnes âgées. Puis c'est de toute beauté de voir ça. Là. Puis ils ont trouvé les trucs pour garder le patrimoine.
Ben moi, je me rappelle, alors, Michel, c'est à Côte de Beaupré. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission-là qu'on avait fait. Le monsieur, tout ce qui restait, c'était une maison de pierre. Il restait les murs puis la toiture. Il n'y avait même plus de plancher. Puis il arrive avec une terre magnifique le long du fleuve. Puis il a quand même réussi à la sauver, cette maison-là. Et c'est sûr qu'à l'intérieur, bon, il n'y a plus nécessairement tous les vieux matériaux, mais moi, j'ai été vraiment assommé de voir le résultat que ces gens-là ont donné à des murs puis un toit, là.
Écoute, une chance qu'on a des particuliers dans la province de Québec qui ont le cœur de protéger notre patrimoine, parce que je veux dire, ça ferait longtemps là qu'on serait rendu ces maisons de plastique un peu partout là.
Ah, c'est épouvantable. Hey, c'est drôle parce que je passais à Verdun.
On serait rendu là.
Je passais à Verdun ce matin. Ceux qui connaissent la ville de Verdun, là, près du McDo, près du Saint-Hubert, là où il y avait une espèce d'aréna qui était toute recouverte, tu sais, des espèces de panneaux d'aluminium laid là. Qui était là de héritage des années 70-80. Là, il y a un projet de restauration. Fait que là, ils ont tout arraché, ces panneaux-là. Et en dessous, c'est de la brique ancienne. Écoute,
oui,
c'est de toute beauté avec c'est un monument que je découvre parce qu'avant, ils avaient mis pas juste des panneaux d'aluminium, mais ils avaient mis ça carré, solide. Là, ils ont tout enlevé ça. Tout ce recouvrement laid de plastique, pour reprendre votre terme, Michel Martin.
Oui.
Et qui a révélé, ce matin, écoute, c'est ma ville, Verdun, j'habite là, je savais même pas qu'il y avait ça. Et j'essaie d'éviter parce que c'est un coin plein de travaux. Mais ce matin, ça m'a fait du bien de voir ce qu'il y avait en dessous. J'étais avec ma fille. Je regarde ce qu'il y a en dessous. C'est de toute beauté. Puis là, ils sont en train de le restaurer. Peut-être que ça coûte plus cher, mais sincèrement, si ça fait du bien au monde comme ça, puis ça nous rappelle. Ça nous ramène à une époque aussi.
Oui, mais ça coûte-tu vraiment plus cher, Michel, ou bien non, aussi d'arracher puis de restaurer? Les matériaux sont là, on n'a pas les achetés.
Il n'y a pas un chantier qui est pareil. Le problème, c'est que les gens qui interviennent là-dessus, des fois, au niveau des professionnels, ingénieurs ou bien architectes, ou bien non, après ça, les gros entrepreneurs qui prennent le chantier en main parce que c'est tout le temps mis en soumission après ça, ces gens-là ont souvent pas beaucoup de connaissances au niveau du patrimoine ancien. Fait que ils font pas assez affaire avec des gens qui ont de l'expérience, même avec des privés. Ils font pas assez affaire. Ils vont pas assez voir sur le terrain qu'est-ce que d'autres ont fait, de quelle façon qu'on peut faire les choses sans débourser des sommes énormes. Là. C'est certain que ça coûte tout le temps des sous restaurer. Là. Mais il y a moyen de jouer avec le POC.
Mais c'est beaucoup du temps aussi. C'est pas nécessairement de l'argent, là. C'est le
oui,
temps et la patience.
C'est de l'expérience aussi, là. Moi, j'ai déjà été embarqué, pour le nommer, là, j'ai déjà été embarqué sur le projet d'une restauration municipale d'un bâtiment à Saint-Augustin-de-Desmaures, où ce qu'ils m'ont appelé, là, ils savaient plus quoi faire, là. Il y avait des gens professionnels qui ont dit, ben, regarde, ça, faut enlever ça. On va enlever tous les murs après ça, on va lever la charpente d'un air, on va faire des murs en 2x6 en bas. On va être capable de calculer nos charges. Là. On va savoir où s'en aller. Ils ne savaient même pas que c'était des murs en pièce sur pièce qui étaient dans cette maison-là.
Ah, oh, mon Dieu. Voilà, mais le pièce sur pièce, expliquez rapidement, Michel Martel, ce que c'est que le pièce sur pièce.
Le pièce sur pièce, là, si on veut se faire une image très rapide, là, tout le monde sait c'est quoi un camp en bois rond. Alors, c'est comme un camp en bois rond, excepté que c'est fait plus avec plus de technique. Alors, c'est des billes de bois qui sont équarries à la hache, qui sont mi-carrées, puis qui sont empilées une sur l'autre avec différents assemblages, tenons, mortaises, mi-bois, des poteaux à coulisses, et puis c'est tenu avec des chevilles de bois, puis c'est ça qui fait la structure interne d'un mur.
Ça se déménage, celles qui sont abandonnées, on peut les démonter, comme un jeu de Lego.
Absolument.
Puis, c'est de toute beauté.
Michel, et c'est sa spécialité. Il va la défaire, la numéroter, la nettoyer, et on se fait une fondation pour bâtir ça par-dessus. Fait qu'on a une maison de 200 ans en œuvre.
Tu fais ça, toi?
Ben oui.
Déjà,
ben, Michel, ouais, a fait, hein? Moi, j'avais une maison de pierre à Saint-Placide, et Michel m'en a trouvé une à Lévis.
Oui.
Raconte, Michel, comment tu l'as trouvé.
Oui, j'ai trouvé une maison qui était abandonnée là à Pintendre. Et puis, j'ai fait affaire avec Alain pour l'amener chez eux. On l'a tout démonté, on l'a numéroté, puis on a été remonter le structurel de la maison. Fait que pour la coller après sa maison de pierre, puis faire une rallonge. Et puis après ça, ben on peut l'aménager comme on veut à l'intérieur. Mais le structurel est élevé là. C'est une maison...
Tout était là, les planchers, la structure, les poutres. Il y avait presque rien à faire. Et je vous dis, moi, je peux vous dire comment je l'ai payé, la maison.
Oui, c'est ça, c'était ma prochaine question.
Okay, la maison avec...
Faut-tu être un magicien pour faire des spectacles à Vegas pour se payer ça?
Attends un peu, là. La maison qu'on a choisie, payer le propriétaire, ouais, payer Michel. Je ne te dirais pas combien tu charges, Michel. Ben, à l'époque, tu devais être moins cher. Mais maintenant que tu es rendu une sommité, moi, je pense que ça m'avait coûté 22 000 $.
Arrête.
La maison. Ou c'est ça, Michel, 22?
Oui, oui, oui.
Dans
à
ce coin-là.
Ça pour l'amener chez vous.
Donc, j'ai la maison dans ma cour.
Les travaux de la remontée, là.
Ouais. Mais là, on bâtit une fondation, puis on remonte les murs, puis on l'isole, puis on fait le plancher, puis on nettoie tout ça. Donc.
Et là, d'ailleurs, Michel Martel, en ce moment, vous travaillez sur une dizaine de projets, c'est ça? Six projets de maison que vous sauvez, ces maisons-là?
Non, il y a des projets de maison que c'est des travaux sur des maisons ancestrales. Il y a un projet que c'est une maison que je vais récupérer, là, qu'il faut qu'elle soit démolie. Il y a une maison neuve qui s'en vient à sa place. Il y a un autre projet que je vais remonter, une grange ancienne qui ont démonté il y a 7-8 ans. Je travaille sur une restauration aussi là, d'un manoir important là, à côté de Beaupré. Là.
C'est une autre affaire, les granges, les bâtiments agricoles là, qui disparaissent pour des granges de tôle.
Mais oui, le monde achète ça, ils se font des tablettes.
Quand même.
Oui,
au moins,
c'est
récupère.
Ça, c'est malheureusement le marché.
Et d'ailleurs, vous allez être honoré bientôt. Mais avant, on va, puisqu'on dit que vous êtes une sommité, Michel Martel, et puis c'est vrai, là. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas rester jusqu'à 1h30 avec nous, là? Je sais que vous devez nous quitter bientôt. Je vais vous entendre sur à Farnham. Aujourd'hui, c'est dans le journal. Je disais aux auditeurs tout à l'heure, là, il y en a plein des exemples régulièrement, là, des maisons. Surtout qu'on dirait qu'il y a comme un virus qui se répand. On dirait au Québec, on est en train de passer la hache, de passer la gratte, carrément. On les a vus.
C'est une méconnaissance, hein?
C'est ça, là. Mais à Farnham, vous connaissez l'histoire de l'église Saint-Romuald. Il y a des gens qui m'écrivent là-dessus en ce moment, qui me disent « faites quelque chose ». Moi, je voudrais bien faire quelque chose, mais apparemment que cet édifice-là est classé les flèches de l'église. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de Notre-Dame puis de sa croix en haut, là, de la fameuse flèche, là. Bon. Nous, on a des flèches d'une église à Farnham. Cette église, c'est classé exceptionnel. Selon les registres du Conseil du patrimoine religieux, qui relève du ministère de la Culture, et là, il y a le propriétaire de l'église qui a demandé un permis de démolition.
Êtes-vous au courant de ça? Ils veulent faire quoi, des condos, là?
Ben, autre chose qu'une église, visiblement, là. C'est ça qu'on comprend, là.
On va aller prier au 224.
C'est quand même assez incroyable. Et là,
oui,
ce qu'on dit,
ça,
là,
c'est
ça vaut...
le début des problèmes qu'on va avoir avec nos églises au Québec, là. Ça s'en vient, là.
Clairement.
Parce que
et là, tout le monde dit, mais ça vaut pas la peine de garder ça. Mais qui dit ça?
On n'a pas un ministère qui protège le patrimoine.
Oui, tout à fait. Oui. Et la dernière fois qu'on en a parlé, il y avait entre autres Dino Bambarou qui était ici, puis qui se plaignait beaucoup du fait qu'il n'y avait pas eu au ministère de la Culture, qu'il n'y avait pas une grande compréhension de la protection importante qu'il faudrait mettre à ces édifices-là. Et l'ex-ministre Christine Saint-Pierre l'a comme pris personnel et m'a écrit pour me dire, écoute, c'est pas vrai, il y a quand même des choses qui sont faites. Fait qu'il y a quand même, dans la loi actuelle, il y a quand même quelque chose là, qui nous permettrait de les sauver, ces bâtiments.
Oui, c'est ça. La principale chose qui permet de les sauver, c'est qu'il faut tout le temps trouver une vocation.
Mais faisons des musées. Vocation.
J'ai un très bel exemple à Trois-Rivières par rapport à ça.
Allez, c'est quoi l'exemple?
J'ai un très bel exemple.
Okay.
L'église anglicane qui est dans le vieux Trois-Rivières a été classée monument historique L'extérieur a été classé monument historique. Ils l'ont restauré, je pense, il y a un an ou deux ans. Et puis, l'intérieur n'est pas déclaré monument historique, puis c'était en attente. La ville, puis d'autres personnes ont essayé d'avoir des subventions, n'ont pas été capables. Par contre, un groupe d'artistes qui roulent depuis longtemps mondialement, qui sont de Trois-Rivières, qu'on appelle les Sages Fous, ont décidé de faire un projet de théâtre, d'enseignement, de théâtre insolite, puis d'inviter des gens à travers le monde qui sont dans ce domaine-là. Ben, ils s'en vont chercher plusieurs centaines de milliers de dollars pour restaurer l'intérieur parce que le projet était très, très emballant puis excitant. Puis là, le gouvernement, on dit OK, on met de l'argent parce que vous savez.
Voilà. Je ne peux pas croire qu'à Farnham, on peut.
Oui. Les chapelles qui ont été transformées en théâtre, c'est d'ailleurs, c'est au Québec, là. Je pense à Lévis, je pense à Sainte-Adèle.
Oui. Michel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous laisse à la restauration de ces maisons. Merci d'en sauver. Merci de nous rappeler à notre obligation contemporaine de sauver ces vestiges du passé.
Oui, absolument. Ben, c'est notre histoire un petit peu, hein, puis il faut... Si on la perd, notre histoire va falloir en recréer un autre. Là. Puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, elle va peut-être être moins drôle que ce qui s'est passé.
Ouais. Merci beaucoup, Michel Martin.
Hey, merci. Hey, salut Alain, à la
salut
prochaine.
Michel, on se voit.
Il est fabuleux. Tu veux aller prendre un verre avec lui, là, tu sais.
Une bière.
Une bière, c'est sûr.
Lui, il est à la bière, lui.
Ah oui, j'en
veux. Efficace, là, puis ça connaît doit... ça, puis
tu sais qu'il faut qu'on aille à la pause, mais on va revenir. Non, regarde les gens qui veulent déjà appeler. Les gens veulent parler de ça, alors on va vous donner la parole. Si vous avez dans votre coin des exemples, justement, de pics démolisseurs qui sont passés, qui ont détruit des beaux bâtiments patrimoniaux, si vous en avez d'autres là, qu'on pourrait peut-être sauver, moi, je lance une grande corvée. Sauvons nos édifices patrimoniaux. Moi, je trouve que c'est important. On reste bien sûr en compagnie d'Alain Choquette qui est avec nous. Tout de suite après la pause, 514-790-9850. Puis pour nous appeler, vous faites le 1-866-790-9850. On s'intéresse au sort de nos bâtiments patrimoniaux, puis on essaie de voir ensemble comment peut-on les conserver. On a Francine qui est avec nous. Bonjour Francine, vous êtes une auditrice qui connaissait bien d'ailleurs le fameux édifice là, dont on parle à Berthierville, c'est ça, le monastère. Je pense que votre grand-père a un attachement avec ce monastère-là. Racontez-nous rapidement.
Oui, mais bonjour Madame Maréchal. Oui, mon grand-père était l'ingénieur pour la construction du prieuré de Berthierville. Ça, c'est le monastère des Sœurs Moniales Dominicaines à Berthierville.
De qui le promoteur a racheté, d'ailleurs, l'édifice? Ouais.
Oui, mais je pense que le promoteur ne connaissait pas la valeur patrimoniale de ce bâtiment.
Non, mais il s'en fout. C'est pour ça qu'il achète. Ben oui, c'est pour
non,
ça
mais
qu'il
il est construit, le bâtiment est construit sur les pieux francs qui... C'était une première en Amérique. C'est la première fois en Amérique qu'on utilisait cette technique de construction. Parce que le sol n'est pas solide en dessous, là.
OK. Et c'est quoi ce genre? Savez-vous, vous, comment ça marche, ces pneus-là, ces pieux-là?
Oui, ça a été expliqué dans un article du journal La Patrie, là, du 14 septembre 1933. Toute
oh
la
boy!
Technique de construction.
On l'a pas lu, Francine. on le cherche, là, dans le...
Je vais vous l'envoyer, je vais vous
ben
le transmettre.
Ben oui, c'est fascinant, mais voyez-vous comment que c'est formidable de parler de ça?
De même qu'un article du Journal des Berges de mars 1997, c'est M. Louis-Marie Kimpton qui avait fait un article sur la construction du prieuré de Berthierville. M. Kimpton est de Berthierville aussi.
Habitez-vous une vieille maison, vous, madame?
Ben moi, j'habite une maison qui a été construite en 1925, à peu près.
Une centaine d'années.
Wow, 1925, oui, c'est formidable.
1925, wow. Oui, c'est construit avec des boiseries, tout ça.
C'est solide?
Alors, le fait que c'est construit sur des pieux franquis, ça fait que cet édifice-là est extrêmement solide. Mm-hmm. Il est même à l'épreuve, on me dit, à l'épreuve d'un tremblement de terre.
Oh boy! Mais il est visiblement pas à l'épreuve d'un promoteur.
Par chance que le gouvernement du Québec a réagi rapidement.
Mais là, il y a 30 jours, là.
Ouais. Parce que, mais ils ont donné il y a un an, je crois, là, pour faire une étude pour savoir si le bâtiment doit être classé ou quelque chose, là. Il y a une autre procédure que le gouvernement a prise après la directive des 30 jours.
Bon, ben, on va souhaiter que la conclusion, ça soit qu'on puisse le garder et puis qu'on lui trouve une vocation. Parce que c'est vrai que... Merci, Francine, de votre appel. C'est vrai qu'il faut leur trouver des vocations. Tu sais, après, si tu gardes le bâtiment vide, puis pour avoir... j'ai un ami qui a acheté une vieille église dans le quartier Saint-Henri. il l'a vraiment pas payé cher à l'époque, il l'a revendu depuis, mais ça coûtait une fortune juste pour chauffer le bâtiment. Puis on lui avait dit, ben on vous la vend, cette église-là, mais il faut toute la rénover. Je veux dire, il a quasiment mangé ses bas à essayer de retaper. Et il y avait très peu d'aide. Et c'est là où il devrait y avoir plus de...
Martel.
Ben c'est ça, exactement. On a avec nous Denis. Bonjour, Denis.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, en fait, moi, j'ai deux éléments. En fait, pour la protection du patrimoine immobilier, ça doit passer par les municipalités. Il y a certaines municipalités qui ont des réglementations qui protègent le patrimoine immobilier là au Québec. Je vais prendre, par exemple, à Montréal, à Westmount, par exemple. Westmount est une municipalité qui a des réglementations très sévères.
Ouais.
Lorsqu'on achète une propriété, on ne fait pas de la rénovation, mais c'est des permis de restauration.
Ouais.
Moi, j'ai un couple d'amis qui ont acheté une maison patrimoniale à Westmount, et puis je vous dirais là qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire avec la propriété, mais ça a été vraiment de la restauration. Ils sont allés chercher des matériaux d'origine ou qui s'approchaient le plus possible aux matériaux d'origine. Et cette municipalité-là a une réglementation sévère pour maintenir son bassin d'immeubles patrimoniaux.
Et Denis, vous avez tout à fait raison, puis je pense qu'il faut se regarder un peu, là, nous, les francophones du Québec, puis se dire comment ça se fait que du côté des anglophones, parce que ce que vous dites, c'est très vrai. Non, c'est ça. On dirait que c'est moins.
Et puis, je vais vous dire l'autre chose aussi. Pour les municipalités, comprenez-vous que au niveau de la taxation municipale, de monter une tour à condo sur un site patrimonial, on s'entend-tu que le rôle d'évaluation augmente? Et c'est des taxes en plus qui rentrent dans la municipalité. Tu mets 100 unités de condo sur un terrain, comprenez que chaque unité individualise est taxée.
Ouais.
Donc, il y a un partenariat qui doit se faire entre les municipalités. Et moi, je demeure à Saint-Bruno sur la Rive-Sud. Donc, les municipalités comme Saint-Bruno, Saint-Hilaire, on a cette réglementation-là. On a des beaux édifices historiques chez nous, même si c'est pas une ville qui date de plusieurs années. Mais je regarde à ce qui se fait dans ma région, dans mon secteur, et on fait très attention. Moi, j'ai un couple d'amis qui ont acheté une maison patrimoniale à Saint-Bruno, qui ont converti en restaurant. Ils ont gardé et conservé toute l'essence de cette maison-là. Et j'invite les gens, parce que le restaurant en question, je ne vais pas faire de publicité, mais si vous consultez la revue que la SAQ a sortie pour l'hiver, il y a un bel article sur ce restaurant-là.
Il s'appelle comment? On va leur en faire de la publicité. Ils en sont venus une maison.
Il s'appelle le Bistrot Louis XIV aurait aimé.
Ah, ben c'est le fun.
Et je vous dis, là, c'est un excellent bistrot. Vous apportez votre vin.
On ira les voir. On aime ça découvrir les nouvelles places.
Et vous allez voir, là, c'est une maison patrimoniale. Ils ont fait un travail extraordinaire.
Merci, Denis. Vous, habitez-vous une maison ancienne?
Non, moi, j'habite un condo nouveau, mais j'ai une passion pour les maisons
ancienne. C'est très bon. Merci beaucoup, Denis. Francine, qui nous a appelé tout à l'heure. Rappelez-nous, Francine, je veux avoir vos coordonnées parce que je veux vraiment recevoir ces articles de 1933. Je suis curieuse. On fait une petite pause ici, très courte. On revient tout de suite après. Regarde, nos lignes sont pleines. Tout le monde va parler de ça. On parle de maisons qu'on peut préserver, maisons ou monastères ou églises. Puis il y a Jean-Michel qui m'écrit qu'une des plus belles églises à Montréal, d'après lui, est laissée complètement à l'abandon. Vous irez voir ça, rue Follum, entre Ontario et Sherbrooke. Il dit c'est désolant à voir. Daniel, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, je demeure à Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île.
Oui.
Bâtisse patrimoniale qui était l'ancien hôtel.
Mm-hmm.
Maintenant, nos élus viennent de vendre ça à un promoteur de l'extérieur pour bâtir des condos. Et en plus, ils ont vendu le stationnement qui était pour les citoyens adjacents pour que ça bâtisse plus gros.
Mais voyez-vous, on en parlait hier là, des municipalités qui ont de la misère à arriver, qui veulent plus d'argent parce que c'est la taxe qui est la seule source de revenus pour les villes. Alors, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est accepter des projets, idéalement des tours de gens qui vont éventuellement payer des taxes. Vous voyez, c'est comme une espèce de cercle vicieux.
Village.
Ouais.
On a des tours, il y en a partout des condos à Pointe-Claire.
Je sais pas si vous avez passé dernièrement. C'est ça,
c'est ça. Partout. Puis là, il faut qu'elle mette ça dans un village de 300 ans et plus.
Oui, c'est bien désolant. Merci de votre appel. Mario, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'appelle pour les maisons ancestrales.
Oui, ben oui.
Puis, c'est ça. Moi, j'en ai eu une maison ancestrale, ça fait 10 ans. C'était une maison qui était abandonnée. C'était une pièce sur pièce. Donc, on a investi beaucoup, beaucoup d'argent dedans. On essaie de respecter le plus possible le cachet puis de recycler les matériaux qu'on peut, là. Mais en plus, j'ai une vieille grange en arrière. Puis moi, je suis comme un peu au bout de mon investissement. Là. À un moment donné, on se fait un budget, on se dit on va mettre tant dedans. Ouais. Là, puis, fait qu'on a pas mal rénové. Puis la vieille grange, là, j'ai été obligé de l'amputer de. Elle faisait 110 pieds de long, cette grange-là. Hey, j'ai été obligé de l'amputer de 45 pieds pour pas la perdre parce qu'elle était en train de. Il y avait une partie qui était en train de s'écrouler. Fait qu'elle voulait garder le reste. Puis j'ai demandé à ma municipalité s'ils pouvaient m'aider juste à la relever puis la faire une base solide. Le reste, moi, je serais prête à investir puis à la garder. Mais la municipalité, ils ne sont pas intéressés. Puis je trouve ça triste parce que des vieilles granges, il n'y en a plus, pratiquement plus au Québec. Là. Tout le monde est démoli pour se faire des petits murs dans le condo avec la vieille grange.
Laissez-nous votre numéro de téléphone, Mario. Je serais intéressé à faire un suivi avec vous là-dessus. Mais c'est une belle histoire qui nous montre, une belle histoire de quelqu'un qui veut, Alain Choquette, puis qui n'a pas d'aide.
À Passion Maison, là, à un moment donné, on a détruit, ils ont détruit une grange live parce qu'elle tenait plus. Puis c'est le grand-père qui avait la chaîne après le tracteur puis qui tirait pour la mettre à terre et les enfants pleuraient parce que pour eux, c'est un lieu où ils avaient joué dans leur jeunesse, mais ils n'avaient plus le choix parce qu'elle tenait plus puis elle était pourrie. Alors, il y a des histoires comme ça.
Vous autres, à Passion Maison, pendant 8 ans, là...
On en a vu des choses.
Vous en avez vu, là,
ouais, des... Oui, j'en ai vu des choses. Ça, je vous écoutais avec Michel tantôt. Puis moi, je me rappelle, sur la côte de Beaupré, tu regardais, c'était de l'extérieur, là. C'était comme 4 appartements. Puis en dessous de ça, il y avait une seigneurie, toute en pierre, avec des arbres, des vieux foyers. Et il y avait quelqu'un qui avait acheté la moitié. Donc, tu avais la moitié qui était restaurée, puis tu avais l'autre moitié qui était moderne. Mais la personne qui avait la partie moderne n'était pas intéressée à vendre parce que lui, il trouvait que ça prenait de la valeur à cause de l'autre moitié. C'était devenu une petite guerre entre les deux. Alors, c'est des histoires, il y en a. Mais moi, je vous encourage beaucoup, l'été s'en vient. Prenez votre voiture, faites des promenades le long du fleuve. Si vous allez à Québec, faites le tour de l'île d'Orléans. Ça va peut-être vous donner goût à avoir une vieille maison. Puis il en reste à sauver encore.
Il en reste beaucoup. Ouais. Il en reste vraiment beaucoup.
Il y a plein de petites maisons qui sont abandonnées puis qui demandent juste à avoir une nouvelle famille. C'est pas compliqué, là. T'sais, allez voir sur le site à Michel, vous allez voir des choses que lui a fait. Ça prend du temps. J'entends le monsieur, il a dit ça coûte de l'argent, mais c'est ça, avoir une maison.
Ouais.
Mais vivre dans une maison ancienne, contrairement à quelque chose de moderne, ça n'a aucun rapport. Là. Une vieille maison, ça a une âme, ça a une vie.
Et c'est pour ça que les gens, il y a vraiment des passionnés de maisons comme toi, comme Michel, comme beaucoup d'auditeurs à qui on a eu la chance de parler, qui l'achètent pour ça, qui veulent vivre dans une maison comme ça. Moi, j'ai une maison de 1924. J'ai eu, les gens ont mis des photos dans les boîtes de chaussures qu'ils m'ont donné quand je l'ai acheté. Tu vois les gens qui ont habité là.
Mais juste pour te dire, là.
Écoute, c'est fascinant. Là où je suis, dans mon salon, il y a eu des familles qui ont été là avant. Puis t'es capable, si t'as des photos, puis si t'as un peu d'histoire, t'es capable de raconter l'histoire de cette maison-là.
La maison que j'ai déménagée de Lévis, j'ai amenée à Saint-Placide, la famille m'a recontacté pour pouvoir la visiter. Les grands-parents qui l'ont habité veulent revenir à l'intérieur de leur maison pour voir ce que ça a l'air.
Ouais.
Ça a une âme, ça a une histoire.
C'est passionnant, franchement.
Je veux juste te parler, Isabelle, parce qu'on va venir en reparler.
Oui, mais tu reviendras m'en parler parce que c'est un événement qui va se tenir 7-8 juin, 7-8-9 juin. C'est le Salon des Antiquités de Kings & Fall, dont tu es le porte-parole, mais je te promets qu'on va en reparler.
Parfait.
Et on aura l'occasion des...
Exceptionnel comme événement.
Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Alain Choquette. Bon show au Saint-Denis en fin de semaine. Merci. On va s'arrêter ici pour terminer l'émission. Je vous propose une entrevue avec une femme qui a tout quitté. Elle était une cadre de haute direction dans une entreprise que vous connaissez bien, qui a décidé de changer de vie complètement puis qui vit maintenant 6 mois par année en Inde. Pourquoi on fait ça? Quand même assez fascinant. Si vous avez des projets de changer de vie, c'est certainement une entrevue que vous allez pouvoir peut-être utiliser comme source d'inspiration. À tout de suite, tout le monde.